France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er avril, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'acte 3 de la lutte contre le Covid-19 avec des écoles fermées pour au moins 3 semaines, des restrictions de circulation pour 4 semaines et la fermeture des commerces non essentiels dans tout le pays, mais avec l'espoir d'un début de retour à la normale mi-mai grâce à une campagne de vaccination qui devrait monter en puissance. Tout le détail de ces mesures dès le début du journal. Après les autres titres, Agnès.
Nous verrons comment les parents ont réagi à ce nouveau calendrier de vacances. L'analyse politique aussi des erreurs assumées par le chef de l'État. Nous irons à la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour entendre la détresse des dizaines de milliers de migrants centra-américains refoulés sans ménagement dans l'une des villes les plus dangereuses du monde. Enfin, Édouard Louis poursuit son introspection familiale avec un nouveau roman sur l'émancipation de sa mère.
Et pour parler des nouvelles mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron, comment le dire, de gros invités
oui,
ce matin.
On va dire ça comme ça.
À 7h50, Léa.
Elle a été la première à demander il y a 10 jours d'avancer et de prolonger les vacances scolaires pour casser l'épidémie. Est-elle satisfaite ce matin des annonces d'Emmanuel Macron? Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, sera avec nous à 7h50. Elle n'est pas grosse, hein, je précise.
Absolument pas. À 8h20, lui non plus, le grand entretien de la matinale avec le ministre des Solidarités et de la Santé. À notre micro avec vous, Léa, Olivier Véran. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Tenir encore quelques semaines, tenir pour espérer un début de retour à la normale mi-mai. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir de nouvelles restrictions face à l'urgence sanitaire. Plus de 5000 malades en réanimation et un taux d'incidence de 371 cas pour 100 000 habitants en moyenne dans l'Hexagone. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Alors la question des écoles était au cœur des débats depuis ces derniers jours. Le chef de l'État a finalement tranché.
En effet, les écoles, les collèges, les lycées et les crèches fermeront dès lundi pour 3 semaines. Au moins, avec un nouveau calendrier scolaire. La semaine prochaine, les cours se feront à la maison, sauf pour les enfants de soignants ou les élèves handicapés. Ensuite, les vacances scolaires seront les mêmes pour tous à partir du 12 avril. La rentrée est donc prévue le 26 avril en présentiel dans les écoles et à distance pour les collégiens et les lycéens qui pourront revenir en demi-jauge dans leurs établissements à partir du 3 mai seulement. Quant aux étudiants, eh bien, ceux qui avaient pu reprendre leurs cours pourront continuer à se rendre à l'université une journée par semaine, mais on ne sait pas encore si cette possibilité est valable pour tous, notamment ceux qui sont en classe prépa dans les lycées.
Le calendrier a donc changé, Yann, les modalités de déplacement aussi.
Il y aura une tolérance pendant ce week-end de Pâques. Tous ceux qui souhaitent aller dans une autre région pourront se déplacer sans attestation, mais en journée, attention. La SNCF annonce que les trains rouleront normalement ce week-end, mais à partir de lundi soir, les déplacements seront limités sur l'ensemble du territoire métropolitain pendant au moins 4 semaines. Le couvre-feu est maintenu à 19h dans toutes les régions. La journée, chacun pourra circuler librement dans un rayon de 10 km autour de son domicile. Pas besoin d'attestation donc, mais en cas de contrôle, les forces de l'ordre pourront vous demander un justificatif de domicile. Au-delà de ces 10 km, il faudra une attestation obligatoire et un motif impérieux, professionnel ou médical par exemple, pour pouvoir circuler.
Merci Yann Gallic pour toutes ces précisions. Alors ces nouvelles restrictions connues, il va falloir s'organiser. Comment enfants et parents ont-ils réagi hier soir? Reportage dans une famille de La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine avec Delphine Evenoux.
Sur la table basse, chips et tomates cerises, écran allumé, presque un film à suspense. Le verdict tombe.
Nous allons fermer durant 3 semaines.
Nathan en CM2 et Louise en 4e se prennent dans les bras.
Ah oui, oui, j'attendais. Bah oui, ça me plaît parce que du coup, je vais pouvoir faire des grasses matinées, je vais pouvoir regarder des films, oui, prendre du temps pour moi.
Du côté de la maman, l'enthousiasme est moins évident.
Ça aurait été mieux qu'il puisse avoir une raison de se lever le matin, de s'habiller et d'aller voir les copains et les copines et les profs. Il aurait pu y avoir une espèce de solution intermédiaire qui aurait été, par exemple, de fermer les cantines. Au collège, on aurait aussi pu avoir des demi-groupes, tout comme on les a au lycée.
Emmanuel, professeur d'anglais, va aussi devoir faire cours à distance la semaine prochaine.
Oui, mais en fait, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé aussi. Bon, je campais un peu au milieu du salon.
Pour Mathieu, le papa, ingénieur en télétravail presque à 100% depuis un an, il va falloir composer avec ses nouveaux collègues de bureau. Techniques envisagées.
Différentes pièces en fonction des réunions et puis il faudra réussir à gérer l'organisation globale de la famille, les repas, tout ça.
Et les leçons.
À gérer, est-ce que ce sera du Zoom, est-ce que ce sera des envois comme la dernière fois sur un site pour Nathan, est-ce que on ne sait pas.
Quant aux vacances, pas de déception, la famille attendait les annonces pour se décider, elle n'aura finalement pas à se creuser la tête.
Pas de déplacement durant les vacances, un coup dur pour les professionnels du tourisme qui ont déjà perdu 90 milliards d'euros en un an. Coup dur aussi, Laurent Kramer, pour les 60 000 commerces non essentiels encore ouverts et qui vont devoir fermer leurs portes samedi à 19h.
Avec 150 000 commerces fermés dès samedi soir sur l'ensemble du territoire, le chômage partiel pour les parents qui devront garder leur enfant faute de pouvoir télétravailler, Bercy avance désormais le chiffre de 11 milliards d'euros de prise en charge par mois. Mais les estimations des syndicats de commerçants vont déjà au-delà. Le syndicat des indépendants évoque plus de 250 000 commerces fermés et les aides avancées par le Fonds de solidarité restent encore bien faibles selon les syndicats. Les commerçants redoutent des faillites en cascade d'ici l'été si Bercy n'élargit pas les aides, à notamment toute la prise en charge des loyers du côté des salariés. Comme au printemps dernier, le ministère du Travail prolonge les dispositifs de chômage partiel. Les parents dans l'impossibilité de télétravailler pourront donc bénéficier du chômage partiel à hauteur de 84% de leur salaire net, 100% pour les salariés au SMIC, valable pour un seul des deux parents justifiant de la garde d'un enfant de moins de 16 ans.
Explication signée Laurent Kramer.
Il est 7h06, c'était hier soir, donc la 7e intervention d'Emmanuel Macron depuis le début de l'épidémie de Covid.
Et depuis le fameux « nous sommes en guerre » de la première intervention, le ton a changé. Le chef de l'État a reconnu des erreurs hier tout en assumant ses décisions. Il a une nouvelle fois appelé à la responsabilité de tous et essayé de donner un chemin d'espoir. Simon Le Baron.
Pour la première fois, il s'excuse même sur les lenteurs de la vaccination.
Je sais que beaucoup de nos aînés ont essayé de prendre rendez-vous pour se faire vacciner ces dernières semaines. Trop souvent sans succès, et j'en suis profondément désolé.
Lui qui rejetait en bloc tout mea culpa, adoucit quelque peu son propos.
Nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux, et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai.
Mais c'est pour vanter aussitôt des progrès dans la gestion de la crise.
Nous avons appris, et nous nous sommes à chaque fois améliorés.
Emmanuel Macron n'a aucun regret sur le fait de ne pas avoir reconfiné fin janvier.
Croire en la responsabilité des Français, ça n'est jamais un pari.
Et veut croire que les Français lui sauront gré d'avoir gagné ces jours précieux, comme il dit.
Et vous savez aussi que nous avons tout fait pour prendre ces décisions le plus tard possible, au moment où elles devenaient strictement nécessaires.
Alors pour nous faire accepter ces nouvelles mesures, le président se risque à donner un nouvel horizon.
Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
Le nouveau pari, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron, mais cette fois, il compte sur les vaccins pour le tenir.
Simon Le Baron. Alors les vaccins, justement, plus de 8,5 millions de Français ont reçu une injection et plus de 3 millions ont reçu deux doses. Il faut aller plus vite, a insisté le chef de l'État, avec à la clé Solène Lehen un calendrier plus précis pour les semaines à venir.
Le 16 avril, dans deux semaines, tous les plus de 60 ans pourront se faire vacciner contre le Covid. Un mois plus tard, le 15 mai, tous les plus de 50 ans. Et à partir de la mi-juin, vaccination possible pour tous les adultes de France. C'est la première fois que le calendrier est autant précisé. Les professionnels exposés au virus, comme les enseignants, les policiers ou les gendarmes, pourront eux être vaccinés dès la mi-avril. Le gouvernement devrait en préciser les modalités rapidement. Si l'exécutif allonge la liste des Français éligibles, il souhaite aussi continuer de vacciner les plus âgés en priorité. Ceux qui, après des mois, n'ont toujours pas réussi à décrocher de rendez-vous. La Sécurité sociale a commencé à appeler tous les plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinés pour leur proposer un rendez-vous s'ils le souhaitent. C'est donc un appel coupe-fil. Mais précision, il n'y a pas de numéro dédié. Vous ne pouvez pas vous appeler. Ce sont les agents de la Sécurité sociale qui vous contacteront par téléphone.
Et tous les détails, les calendriers, les cartes de ces nouvelles mesures sont à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Ajoutons que l'Italie a décidé également hier soir de prolonger ses mesures de restriction jusqu'à fin avril.
Il est 7h10, le rêve fracassé de dizaines de milliers de migrants venus d'Amérique sans central.
L'élection du démocrate Joe Biden et ses premières déclarations ont suscité l'espoir des habitants du Salvador, du Honduras et du Guatemala, fuyant la misère et la violence. Mais face à l'afflux de migrants, les autorités américaines ont durci leur position. Les centra-américains sont désormais renvoyés vers Ciudad Juárez, la ville mexicaine située sur la frontière avec le Texas. C'est là que s'est rendu Emmanuel Stills, notre correspondante dans la région. Reportage.
Des scènes de confusion et de désarroi se multiplient ces jours-ci à Ciudad Juárez, à la sortie du pont qui enjambe la frontière. C'est par là que les autorités migratoires américaines expulsent des centaines de migrants chaque jour. Ils arrivent côté mexicain par groupe d'une vingtaine de personnes, principalement des familles avec des enfants en bas âge.
Nous venons d'un centre de détention aux États-Unis, explique cette femme salvadorienne, complètement abasourdie par ce qui vient de se produire.
Ils nous ont dit qu'ils nous transféreraient dans un autre centre pour continuer la demande d'asile aux États-Unis. Ils ne nous ont pas dit qu'on allait au Mexique. Ils nous ont menti et voilà que nous sommes ici pour rien.
Au bout de quelques instants, chez certains, l'incrédulité fait place au désespoir.
Enrique
Valenzuela, un responsable des autorités locales à Ciudad Juárez, explique que les États-Unis ont recours à une norme spéciale qui permet des expulsions expéditives en cas d'urgence sanitaire, en l'occurrence la pandémie de Covid-19. La plupart de ces migrants pensaient qu'avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence, les États-Unis allaient rouvrir leurs frontières aux demandeurs d'asile. Au lieu de cela, ils sont refoulés vers l'une des villes les plus dangereuses du Mexique. Ciudad Juárez, Emmanuel Stills, France Inter.
Ils ont obtenu l'essentiel. Les Bleus sont en tête de leur groupe à l'issue de la troisième journée de qualification pour le Mondial 2022. Mais sans panache après une toute petite victoire 1-0 hier soir face à la Bosnie-Herzégovine. But signé Antoine Griezmann. Enfin, il avait décrit son enfance dans son premier roman pour en finir avec Eddie Bellegueule. Puis s'était attaché à défendre l'image de son père dans Qui a tué mon père. Aujourd'hui, Édouard Louis, signe un puissant récit sur sa mère, ou comment cette femme, mère de 5 enfants, originaire de Picardie, a réussi à s'arracher à la violence de son mari et à la misère. Ilana Mouyoussef.
On se souvient des polémiques écœurantes au moment de la parution de Pour en finir avec Eddie Bellegueule. Est-ce que c'était bien vrai ce que racontait Édouard Louis ? On disait que sa mère n'était pas contente. Vite, tendons-lui un micro. Cette époque glauque est révolue et on ne la regrettera pas. Quant à la mère d'Édouard Louis, elle a toutes les raisons d'être heureuse et fière de ce splendide portrait de survivante. Le récit commence par une photo d'elle, jeune et rêveuse, avant la naissance d'Édouard Louis. Car lui, il se souvient surtout de la honte qu'il avait d'elle enfant, les ruses qu'il déployait pour qu'elle ne vienne jamais au collège, un mari qui la traitait de grosse vache et pas d'argent pour le quitter. Et pourtant, elle était certaine, écrit Édouard Louis, qu'elle méritait une autre vie, que cette vie existait quelque part, abstraitement, dans un monde virtuel. Comme son fils, elle finit par s'échapper, changer de nom, s'émanciper et se retrouve même un jour à fumer une cigarette avec Catherine Deneuve. Une scène digne d'un film d'Almodovar, épilogue d'une évasion réussie, Édouard Louis a retrouvé une mère et il est devenu un fils.
Combat et métamorphose d'une femme est publié aux éditions du Seuil. Édouard Louis qui sera l'invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang à 9h05 sur Inter.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur ces jeunes submergés par l'anxiété en temps de coronavirus.